Vincent Tholomé organise un pique-nique sur un sofa en pilou blanc et gris avec la philosophe et écrivaine Véronique Bergen.
Salut Jeanne, ça va
Vincent?
T'as pas trop de mal pour venir ici?
Non, ça va, il pleut. Ah.
Bien. Bah, content de te rencontrer.
Merci.
Voilà. Oui. Bah voilà. Et donc, on va aller rencontrer Véronique Bergen ensemble, alors, hein, Jeanne. C'est parti.
Pique-nique sur un sofa d'allure moderne, en pilou blanc et gris. Conversation entre Véronique Bergen et Vincent Tholomé.
Moi, c'est une fille, en fait, que je connais depuis quand même pas mal d'années. Pour la bonne et simple raison qu'on est à l'université ensemble, en fait. On a fait la philo romane. Elle était une année au-dessus de moi. Elle faisait la philo aussi, en parallèle. Alors en deux mots, Véronique, pour la situer, c'est une philosophe et une autrice aussi, qui écrit aussi bien du roman, de la poésie, des essais divers, ça peut être des livres autour de grandes figures, des icônes, du style Patti Smith par exemple, la chanteuse, des livres sur des photos aussi, puis elle est critique également. Et son dernier livre... c'est un roman qui s'intitule « Tous doivent être sauvés ou aucun ». Et peut-être que la conversation de tout à l'heure va graviter autour de ce livre. Ce livre, c'est comme une fable écologico-politique, j'ai envie de dire. Véronique, en fait, condense vraiment en une seule œuvre, en un seul livre, comme ça dans une langue assez hypnotique, elle condense toutes ses préoccupations d'autrice et d'être humain vivant à l'heure d'aujourd'hui avec les heurts et malheurs du monde, j'ai envie de dire. Voilà, c'est... Ok, puis il y a les règles du jeu aussi. On est parti dans l'idée de pique-nique simplement pour une rencontre entre des personnes plutôt qu'un entretien formel où il y a des questions et des réponses. Il y a l'interviewé, choisit un lieu de rencontre qui est en résonance en fait avec la thématique de l'émission. Et la conversation va se dérouler dans ce lieu-là. Et l'interviewé donc, et l'intervieweur apportent en plus des objets. J'ai aucune idée en fait de ce que Véronique va apporter. Elle ne sait pas non plus ce que moi je vais apporter. Hein. Donc ça va être une découverte. Ces objets-là vont nous aider à converser. Hein. Donc, ça va nous permettre de rebondir dans la conversation, en théorie. Oui, salut Véronique, c'est nous.
C'est au dernier étage.
Dernier étage, ok, merci.
Quatrième.
D'accord.
Bonjour.
Salut, ça va?
Et sur l'escalier.
Salut, c'est bon?
Jeanne. Par déduction.
Grand merci. Prenant enfin place,
en plus, tu arrives
côte à côte,
des tempêtes,
oui, pour deux bonnes heures,
donc, moi, je suis habillée comme au pôle Nord, parce que
sur divan d'allure moderne, perpendiculaire à la fenêtre.
Milord.
Où, enfin, j'avais plein de lieux de prédilection, des châteaux en ruines, enfin, des endroits très très précis à la croisée d'une nature luxuriante et sauvage, et d'un patrimoine à moitié détruit, parce que j'adore l'esthétique des ruines. Mais comme on a choisi de faire ça en hiver, donc j'ai pris mon lieu parce que c'est quand même lui qui est imprégné de ce que je suis, de ce que j'ai traversé. Le décrire, le seigneur du lieu Milord, mon chat, et sans ça, il y a quelques figures tutélaires.
Donc voilà, c'est ton antre, c'est chez toi ici.
Exactement, oui. Bon, il y a l'étage aussi, si Milord...
Accepte.
Oui,
ne prenant plus garde quant à moi,
à table basse carrée devant nous, jonchée de boîtes en carton contenant tous les trésors, tous les souvenirs, les agencements de Véronique Bergen.
D'Elena Belzer, d'une autre amie, mais bon, j'aime bien, c'est l'épure.
Mmh. Véronique Bergen, prenant soin de ranger ces petits objets par familles entières, dans des boîtes en carton, pas plus grandes que des boîtes à chaussures, s'asseyant d'abord au plus près de la fenêtre.
Anselme Kiefer a passé à la trappe aussi, enfin bon, donc j'ai...
C'est Milor qui fait ses griffes sur Anselme Kiefer.
Oui, peut-être.
Moi, ensuite, prenant place à côté d'elle pour deux bonnes heures de papote diverses.
Donc on n'explicite pas, on les pose juste.
Juste poser les objets, ouais. Bien sûr.
Ah oui. Ça, c'est l'objet multiple, donc... Donc, il y en a, ne vous effrayez pas, parce qu'il y en a à l'intérieur. Donc, c'est une petite famille d'instruments de musique dont je te parlais. La clarinette n'est pas arrivée, parce que je la voulais pour aujourd'hui, mais non. Le deuxième objet déroge de nouveau à la règle. Et j'ai pris tous des objets qui viennent du magasin d'Annick de Prince, avec qui je termine l'abécédaire du Hard Rock Market. Alors, le troisième objet, un masque. Alors là, j'ai hésité, mais par rapport à l'engagement de la cause animale, un tigre du World Wild Fund, ça fait 4.
Oui.
Donc je prendrais cet objet fossilisé qui est une. Je pensais à un gilet jaune aussi.
Donc j'ai pris un disque de Patti, ouais. Smith. J'ai pris un livre d'Isabelle Sengers.
Ouais.
J'ai pris bien sûr,
oui, bien sûr.
Hein, La Brique, mon plateau, de Gilles Deleuze, ouais. Félix Gautary. Alors, c'est écrit en cyrillique, là, c'est Stalker.
Ouais.
Mais c'est pas pour Stalker, c'est pour l'espèce de chien avec une grande langue.
Exactement. Ça, c'est bien.
Puissant.
Ouais.
Un pins Twin Peaks.
Ouais.
À toi de rebondir maintenant. Avec un objet, un des tiens, un des miens, ce que tu veux.
Véronique Bergen, enchaînant alors.
L'importance de la musique, bon, pour moi, elle est vitale, elle est essentielle. Ne fût-ce qu'au niveau de l'écoute, puisque j'écoute par moment beaucoup de musique, par moment beaucoup moins, et depuis l'enfance. Et bon, quand j'étais petite, je voulais devenir, mais comme tous les enfants, rien de spectaculaire, chanteuse, ce qui était complètement idiot aussi, mais comme j'ai une phobie du public et que je suis à la fois exhibitionniste et terrifiée par le public, parce que au lieu de me porter, ça m'annihile, je préfère disparaître sous une dalle de verre. Bon, j'ai bien sûr abandonné ce projet, raison pour laquelle je n'ai rien enregistré au piano, ni rien, parce que bon, il y a une espèce d'inhibition. Et donc c'est.
Puis poursuivant.
Mais sans ça, la musique, elle influe aussi, je pense, mon écriture, parce que elle est porteuse pour moi de. Oui, de sensations, d'émotions, de peut-être plus encore que la littérature.
Et c'est quelque chose. Tu écoutes la musique en écrivant?
Rarement. Non, parce qu'alors ça fait
interférence.
Rarement. Par moment, je le fais, mais comme j'ai ma musique intérieure et comme j'ai une écriture à l'intérieur de laquelle j'essaye d'entendre le rythme, d'écouter le rythme. Si j'ai un rythme extérieur, il risque de... Oui, d'interférer. Et de...
Okay, okay.
Ah, ouais. Ouais.
Moi, j'aurais envie, par rapport à la musique, justement, pour rebondir dessus, repartir de... Mine de rien, revenir avec... Pas sur Patti Smith en tant que tel, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, t'en as déjà un petit peu parlé. Juste dire que t'as écrit un livre à son sujet.
« Oui, j'ai écrit un livre donc, qui analyse le premier album Horses, puisque la règle de la collection est de jeter son dévolu sur un album qu'on décortique musicalement, au niveau des textes aussi. Et bon, ça me semblait quand même l'ovni dans l'œuvre de Patti Smith, puisqu'elle parvient là à fédérer et à conjoindre l'énergie du rock dont on parlait et la poésie, quoi.
Véronique Bergen, 10 ans.
Elle intègre une autre dimension, peut-être même un peu chamanique, et surtout elle apporte l'électricité au sens de la puissance du volt dans le verbe. Et donc, elle forme quand même, elle inaugure une forme hybride qui n'est pas la poésie parlée, mais qui est vraiment une espèce de fécondation de deux champs qui étaient hétérogènes. La poésie, dont elle déplorait que plus personne ne l'entende, et le rock. Et donc c'est vrai que le rock permet de véhiculer alors une puissance d'impact du côté occidental, puisque effectivement, comme tu le sais, sans ça, la poésie muette est quand même fortement secondarisée ou dans le sépulcre.
Moi, revenant alors sur deux mots, dit à l'instant par Véronique Bergen, lui demandant de me dire où elle irait si je lui mettais entre les mains les mots « chamanisme » et « intensité ». Elle, disant alors...
Vers Deleuze, vers la création, vers l'ouverture d'espaces qui ne sont pas des espaces donnés. Parce que je pense que si la création n'ouvre pas des portes, des portes vers l'ailleurs, si elle ne creuse pas d'autres territoires que ceux qui sont donnés, je dirais, à Jean, puisqu'on peut voir la création comme une espèce d'ivresse ou de drogue permanente, si elle ne répond pas à cette mission, je pense que la création est vaine et on reste alors dans la littérature ou la musique ou la peinture formatée, uniformisée. Enfin bon, tu la connais bien, puisqu'elle est omniprésente, hégémonique. Et donc chamanisme et intensité, ça va vers l'expérimentation, ce qui ne veut pas dire table rase, parce que je suis fort attachée à une fusion de l'héritage et donc de la tradition et du nouveau. Si on prend Patti Smith ou bien ma propre trajectoire, il y a énormément de sédimentation, il y a une espèce de gourmandise, de boulimie par rapport à tout. Et pour moi, tout est contemporain quelque part. Quand je lis Pierre Guillotat ou Hélène Cixous, Quignard ou Shakespeare, pour moi, il y a vraiment une contemporanéité. Donc j'adore aussi les différences de registres de langue. J'adore me replonger dans des écritures qui ont l'air un peu désuètes, mais qui, à mon avis, sont moins désuètes que bien des écritures actuelles. On peut penser à la prose de Chateaubriand, à Bossuet, et donc vraiment avoir une multiplicité de registres d'écriture. Et donc je n'aime pas non plus un enfermement dans le XXIe siècle, mais vraiment une espèce d'irrigation qui n'est pas une érudition, parce que l'érudition en tant que telle ne m'intéresse pas, même si, heureusement, il reste encore des grands érudits par rapport à cette espèce de médiocratie consensuelle, mais vraiment faire des voyages où les anciens sont contemporains de nous, plus contemporains peut-être que les gens qui, qui nous entourent.
Oui, ça, qui disent être contemporains.
Mais oui.
Moi, ne quittant pas des yeux Véronique Bergen, pliant soigneusement sur ses genoux, puis dépliant, puis lissant, encore et encore.
ton t-shirt.
Oh. Hein?
De sa main, un t-shirt kaki de taille M, spécialement apporté pour l'affaire. Une figure sauvage, animale, tracée à la main, figurant un chien. Selon moi, un chien, hirsute et debout. Tirant une langue démesurée, se déroulant comme un cotillon.
Et donc, tu m'as dit que c'est un chien, mais comme...
Ouais, en théorie, c'est un chien.
Comme la stylisation laisse place à l'imagination, moi, je voyais un chat ou une espèce de totem hybride. J'aime bien aussi la juxtaposition du cyrillique, puisque... Toutes les écritures et tous les alphabets, j'ai toujours eu une passion pour le décryptage ou toutes les langues qui n'ont pas encore été découvertes et le totem animalier qui me parle, puisque comme tu le sais j'ai fait parler des chiens et j'aime bien maintenant explorer des voix dans la littérature qui donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas eu, à ceux qui ont été muselés. Milord, on entend tes pattes sur le... Viens, Milord. Sans me substituer à eux, puisqu'il n'est pas question de m'approprier leur voix, mais quand même d'ouvrir les portes de la perception à des entités qu'on a tenues bâillonnées ou dont on n'a pas écouté la puissance d'énonciation. Je pense que la littérature a quand même des percées à faire de ce côté-là, à écouter justement les bruissements et tout ce qui a été relégué dans l'insignifiant. Tout ce qui a été relégué à la poubelle, comme on est dans un monde où maintenant... la quasi-totalité de l'humanité, à partir du moment où elle n'est pas consommable, n'est pas un agent de la consommation, de la production, passe à la trappe. Je pense qu'il est utile de faire œuvre de rachat, entre guillemets, ou de sauvetage de ceux qu'on condamne à l'inexistence.
Puis disons encore.
Oui, mais je pense que la création, quand même, a pas comme mission, parce que j'aime pas le terme de mission, mais est vertébrée par le fait de décloisonner, d'une part, et de dynamiter toutes les inerties, tous les clichés, tous les stéréotypes, toute la part de non-pensée, cette espèce de verrouillage, de formatage, et donc essayer de creuser des brèches, d'aller ailleurs, et de remettre en question, de remettre en mouvement, comme tu disais, ce qui est induré, ce qui est fossilisé.
Les plumes de... Il y a la zone plume.
Oui.
C'est bien, ça réveille son instinct chasseur. Oui. Brité en appartement.
Jeanne, quant à elle...
Oui, malheureusement.
La discrète Jeanne. Ne pipant mot ou presque.
C'est l'église, hein ?
Oui, elle est partie...
Se contentant de nous enregistrer.
Intéressante esthétiquement. Au début, j'avais un...
Prenons garde surtout à ce que nos têtes ou nos genoux... ne heurte pas par accident le micro. Simple boule de plastique bleu, tenue par Jeanne, à bout de bras.
Ici, en fait, le t-shirt, c'est un chien à la langue bien pendue, comme dans ton dernier roman. Oui, exactement. J'avais vu l'allusion,
oui,
perçue. Le chien, pas bavard, parce qu'ils ne sont pas bavards, non. Mais le chien qui prend la parole, qui s'octroie la parole qu'on lui refuse. Parce que, bon, à l'heure actuelle, il est vrai que beaucoup de gens pérorent ou tiennent le devant de la scène médiatique, alors qu'on aimerait bien qu'ils se taisent. Et il y a des voix qu'on n'entend pas. Et bon, qui devrait surgir justement.
Ajoutons.
Oui, oui, donc dans Tous doivent être sauvés au camp, j'ai pris comme voix narratrice celle d'un chien que j'ai appelé Falco. Les prénoms, moi, m'importent peu. Je sais que c'est sacrilège de dire ça parce qu'il y a des écrivains qui réfléchissent. Pendant une décennie, un prénom, mais moi, il y a... Enfin, les prénoms ne m'accrochent pas particulièrement, sauf exception. Et donc, ce chien devient psychopompe à l'occasion d'un abandon. Et donc, puisqu'il est abandonné par la race humaine, et abandonné par sa maîtresse, et donc après un temps de consternation, de lamentation, de tristesse, il voit qu'il a regagné ce que la domestication lui avait fait perdre, donc le contact avec une hypersensorialité, et le contact surtout avec les grands, les morts, donc avec le monde de l'au-delà, l'outre-monde, les autres mondes. Et lors de ces séances de visitation, il est traversé par des entités qui sont parfois compliquées, puisque j'ai pris comme entité des chiens qui me permettaient d'analyser un contexte historique sous le regard d'un chien. Donc il est traversé par Blondie, parce que j'ai eu la folle idée, la gageure de faire une espèce de radiographie condensée du Troisième Reich, de la Shoah, à partir de Blondie, qui a eu
Donc, était
le chien d'Hitler. Donc, ça, c'est la première visitation, une entité, un ectoplasme compliqué, pas Blondie en tant que tel, mais parce qu'il y a tout le système totalitaire, le génocide et la Shoah, l'extermination derrière.
C'est Blondie qui parle. Extrait de « Tous doivent être sauvés ou aucun » de Véronique Bergen. Quand je fus conduite devant A.H., la poignée de main qu'il me tendit comme si j'étais un de ses généraux, l'éclat fiévreux de ses yeux, sa voix diffractée en chausse-trappe, m'avertir qu'il était non seulement dérangé, désaxage mental aigu, mais qu'il était un revenant, un mort vivant, échappé du royaume des Maccabées. Mon pelage blond, à rien, mon ouïe hypertrophiée, ma ligne svelte, firent qu'il tomba sous mon charme. Coup de foudre de style wagnérien que j'aurais dû étouffer dans l'œuf en mordant ses mollets, en attaquant sa garde rapprochée, en urinant sur ses bottes. La mission des faux ex-morts qui donnent le change, mais dont toutes les cellules sont habitées par la non-vie, c'est de changer les vivants en cadavres, de revenir sur terre afin d'attirer les pas encore clamsés dans leur giron de Maccabée. La mission de A.H., c'est de faire rouler la planète dans la gueule de Thanatos, pour qui il travaille. Les promenades à l'air libre se raréfient après le Berghof, après la Wolfschanze, connue sous le nom de Tanière du Loup, après le Nid d'Aigle de Berchtesgaden, atterrir dans ce mausolée sous la chancellerie de Berlin, enseveli sous terre comme une larve, au fond d'un terrier de béton, plombe mon moral. L'architecture où mon maître choisit de vivre reflète son état mental. Albert Speer a tout compris. Le bunker dans lequel le Führer se barricade avec son état-major n'est autre qu'un agrandissement, une extension de son cerveau emprisonné dans la démence, coupé de tout, de la réalité, du sens du présent. Se terrer dans une crypte, géante, grouillante de monde, s'enfoncer dans les entrailles de la terre, dans une forteresse imprenable, c'est préparer sa sortie de scène, descendre les marches de la mort. Vu que notre tombeau transpire l'humidité, vu qu'il ne connaît jamais le silence déchiré par le bruit constant des ventilateurs, j'en conclus, syllogisme de pur berger allemand, que mon maître a la cervelle noyée sous l'urine et la bave de ses pensées parano-mégalomaniaques.
Et les autres entités qui visitent Falco lors de leur traversée donc vers le sud, c'est les chiens de Marie-Antoinette, parce que j'ai voulu faire une radiographie de la Révolution française. Le chien Loukanikos, qui figure normalement en couverture, le chien des émeutes grecques lors des insurrections, des émeutes des 2008 contre la politique de l'austérité. Et j'ai pris aussi un chien d'une tribu Yanomami, ce qui nous ramène à ce dont on parlait.
Chamanisme et tout ça.
Oui. Et donc le livre aussi tourne autour d'une récusation, mais sous la forme d'une fiction, de l'animal-machine de Descartes. Les animaux étant considérés sans âme, dépourvus d'âme, sont exploitables et corvéables à merci. Idée qu'on trouvait déjà dans la Bible, etc. Et donc c'est un peu contre cette longue tradition d'un anthropocentrisme forcené que le livre s'inscrit pour la dénoncer et pour surtout, parce que la dénonciation en tant que telle n'a pas tellement de positivité, mais pour amener à un sursaut, une prise de conscience et à la possibilité d'établir d'autres rapports avec les écosystèmes et d'autres manières d'habiter la terre que en maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes.
Qu'est-ce que tu incorpores du chien dans... Comme si ton écriture... Enfin, comment tu fais pour que la langue utilisée soit une langue, pour reprendre les modes de Deleuze, une langue en devenir chien quelque part? Oui. Tu vois ce que je veux dire?
Bon, je ne sais pas si j'y réussis ou pas, mais quand je m'aventure dans ce type de projet ou dans tous mes romans, je n'ai absolument pas et donc, de préconception théorique. Enfin bon, j'ai le bagage philosophique, mais ce qui est agissant, c'est vraiment une... Je dirais pas que tout coule de source, mais oui, parce que j'entends les appels des chiens, j'entends les entités, et je m'ouvre à elles, ou j'ai l'impression de m'ouvrir à elles, parce que peut-être, si un chien me lit, il va me dire, mais c'est pas du tout... Elle a rien compris, c'est vraiment l'anthropocentrisme au carré. Mais donc, il n'y a pas de... Comment dirais-je ? De préconception philosophique, c'est plutôt dans l'écriture elle-même qui se met en place, qui ouvre les portes. Je me mets en état de réception.
C'est ça. Comme si pour reprendre aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de porosité aussi.
Oui, tout à fait, c'est exactement.
Oh. C'est plutôt ce genre de choses-là. Donc ouais.
Non, c'est... C'est parce que quand on parle souvent des livres, on a une approche alors extrêmement construite, extrêmement argumentée, et le lieu, l'ombilique et en amont, ça ne vient pas du tout de là. Pas du tout. Donc c'est vraiment une espèce de transport. Et j'écoute, je fais énormément de travaux. Pardon, les chiens n'utilisent pas le pluriel, donc des travaux de recherche en amont. Mais je fais ça très très vite aussi, parce que j'engrange, et donc je sais très très vite où je vais aller Donc j'aime bien aussi ces allers-retours entre l'aspect archive, pas archive au sens de respect total d'une histoire, mais pour justement produire une contre-histoire, une autre histoire. Mais j'adore aussi le travail de consultation des sources, puisque bon, tout ce que j'écris sur la Révolution française, c'est comme un métayer. Mais je fais une appropriation aussi, alors très très rapide. Mais j'aime bien cette espèce d'engrangement, comme les castors, ou comme...
Moi, disant parfois n'importe quoi, tournant et retournant entre mes mains le fossile, posé tout à l'heure par Véronique Bergen, sur la table carrée. Nous, papotant ensuite un peu du temps, cyclique ou linéaire, de l'état du monde, des puissantes troïkas, de l'errance des sans-voix. Moi, laissant ensuite Véronique Bergen dériver, parler de l'enfance, la jeunesse et l'enfance.
Donc, ce sont des objets que j'ai achetés dans le magasin d'Annick de Prince, rue des Éperonniers. Et là aussi, c'était une vitrine qui ouvrait vers l'ailleurs. Donc, on avait cette rue des Éperonniers. J'étais encore très jeune, mais on sentait encore le souffle de la contre-culture. Il y avait pas mal de marginaux, donc toute une activité créatrice. Et bon, là aussi, quand on fait la radiographie de la ville, maintenant il n'y a plus que des pitas, donc tout ce foyer un peu libertaire, avec des petits créateurs, il n'en reste rien. Et donc là, c'est la fibre nostalgique que j'assume, parce que dans notre société, on n'aime pas la nostalgie. Je pense que la nostalgie peut être... prospective et non pas rétrospective. Et donc dans la boutique d'Annie, qui était peinte tout en mauve, parce qu'elle adore le heavy metal, et donc en hommage de Deep Purple, il y avait cette grande façade mauve qui après a enserré le Hard Rock Market. Et c'était pour moi, adolescente, la caverne d'Ali Baba. Bon, il y avait le personnage d'Annie, immuable, avec ses yeux de chat... Donc cette générosité et ces objets qu'elle ramenait d'Amérique du Sud, donc cette fiole qui est très romanesque en elle-même, puisqu'on peut imaginer fiole à poison pour éliminer les conquistadors, Pizarro et consorts, ou bien ça peut être une fiole pour mettre de la coke ou autre substance illicite. Et donc je l'ai conservé, non que je sois conservatrice, mais il y a certains objets qui sont plus chargés d'âme peut-être que certains humains. Donc je reviens à Caspar Hauser. Caspar Hauser professait une pensée animiste, et je crois que nous tous, même adultes, on garde une certaine conviction animiste, que certains objets, pas tous heureusement, ça rendrait la vie compliquée, mais certains objets sont animés ou à tout le moins habités. Et puis je pense aussi que ce qu'on a découvert ou expérimenté, exploré dans les années de l'enfance ou à l'adolescence, ou les découvertes littéraires, les découvertes sensitives, les découvertes artistiques, musicales, elles ont quand même une prégnance et une activation bien plus grande que ce qu'on découvre par la suite. Enfin, c'est en tout cas le sentiment que j'en ai. Et donc... on est toujours aussi à la recherche alors de l'intensité de cette première fois. Et même là, pareil, on peut penser à la musique classique. Généralement, c'est peut-être un travers qui m'est propre, donc je ne l'attribue pas à tout le monde. Mais la première interprétation que j'entends, par exemple, le Requiem de Mozart par Karajan, même si le personnage de Karajan a ses zones d'ombre politique, mais bon, peu importe. Mais je pense que c'est aussi parce que c'était la première écoute, et la première écoute reste marquée d'une fascination que les deuxièmes, enfin d'autres interprétations ont du mal à supplanter. Ça, c'est très très curieux.
Puis l'embrassant sur la joue.
Est-ce qu'on n'a rien oublié? Non, ça va?
Je pense pas. Enfin, bon, en tout cas, tous les objets?
Oui, je crois.
Ok. J'ai toujours à double tour parce que j'avais un autre chat, il sautait sur les portes, il ouvrait tout.
À bientôt.
À bientôt, salut, salut.
Véronique Bergen, écrivant après coup, après l'entretien.
Si le dispositif sonore repose essentiellement sur le dit, il creuse aussi le silence, laissant respirer les vibrations, l'absence, les passages entre les mots. La musique est l'art des passages, des transitions entre les notes. Comme la musique, ma conversation avec Vincent laisse entendre l'inaudible, ce qui fuit, petite perception leibnizienne, avant qu'elle ne s'intègre en macro-perception, monde des souffles muets, bruissement, en deçà de la rationalisation et du dépôt en unité phrastique. La voix, les voix, comme appôt, attirant à elle le grain des choses, nos voix dansant sur les intensités de la matière, dans une unité de temps, mais un temps fibré où le présent est contemporain du passé, une unité d'espace, mais un espace intriqué à des lieux éloignés physiquement, géographiquement, mais proches psychiquement. Unité d'intrigue, intrigue fictionnelle, poétique, à la source de la pensée de ce qui les prône. Nos voix courent sur les failles, sur les béances du dire, du pensable, sans les colmater. Qui dit voix dit corps, qui dit corps dit connexion au peuple des muselés, écoute des créatures bâillonnées, reléguées dans l'indicible. Tigres, ours, loups, oiseaux, forêts, océans, rivières. Nous lançons nos voix comme essaims d'oiseaux, afin de toucher sans détruire, afin d'ouvrir des paysages sauvages, luxuriants et indociles.
C'était Pique-nique sur un sofa d'allure moderne en pilou blanc et gris. Conversation entre Véronique Bergen et Vincent Tolomé. Réalisation Vincent Tolomé. Prise de son Jeanne de Barcy. Montage Sébastien Disner. Avec des musiques de Maya Yantar et Gauthier Keyartz. Un chant Yanomami, enregistré par David Toupe. Les voix de Sybille Cornet et Jeanne de Barcy. Musique des génériques. Sébastien Disner.
Une production Le Grain des Choses.